Voilà, donc ce soir, je vais parler de qualités qui sont extrêmement propices à ce qu'on appelle l'éveil, la sagesse, la compréhension, la vision pénétrante. On a pu donc comprendre qu'il y a des états mentaux qui perturbent et bien sûr qu'on a aussi des qualités, tout un chacun, qui permettent de découvrir, d'explorer le chemin et qui nous accompagnent tout au long du chemin. C'est des qualités tellement importantes que l'enseignement les appelle des facultés ou des forces spirituelles. Et vous verrez qu'il y en a qu'on connaît très bien. Ce qui paraît intéressant, c'est que la première, et la confiance. La deuxième, l'effort ou l'énergie ou l'enthousiasme. La troisième, l'attention méditative ou la pleine conscience. Quatrième, stabilité mentale ou concentration. Cinquième, sagesse. Vision pénétrante. Donc, la plupart de ces qualités apparaissent dans plusieurs des enseignements. Par exemple, la pleine conscience, l'attention apparaît vraiment très fréquemment. C'est un pilier fondamental. Et il va de soi que cette qualité qu'on appelle pleine conscience ou mindfulness est exactement cette qualité-ci. Elle est extraite quelque part d'un ensemble d'un enseignement, mais elle est accompagnée d'autres qualités. Et c'est évident que pour la renforcer et pour cheminer vers la vision pénétrante ou la compréhension ou le développement qui permet une transformation intérieure, ce qu'on appelle sagesse intuitive, basée dans l'expérience, on a bien sûr d'autres qualités, des alliés à la pleine conscience. Donc cette première qualité dont je vais parler de chacune, un peu de chacune d'entre elles, la confiance. Elle dit que rien n'émerge dans la pratique ou dans notre vie sans un certain élément de confiance. Même si on ne sait pas très bien où on va, il faut une certaine qualité, quelque part de confiance. Et tout d'abord, elle est décrite comme une confiance aveugle, dans le sens qu'on ne sait pas très bien à quoi elle mène. Mais il y a un certain élément qui est là et elle est placée en premier lieu à l'extérieur. Et ceci, on le comprend très bien, donc dans la croyance. C'est une croyance quelque part conventionnelle. C'est-à-dire que pour nous tous, on a eu un cheminement qui a fait que on est assis ici ce soir, mais que quelque part, ce chemin, il a commencé un jour. On a pu peut-être lire un texte par rapport à ce qu'on pratique ici, entendre quelqu'un, une amie, un ami qui nous a parlé de la MBSR. Et puis voilà, tout à coup, il y a un cheminement qui se fait et qui prend forme. Et on a confiance, soit dans le texte, soit dans ce qui est dit, une lecture, une parole de quelqu'un d'autre, ou on entend un enseignement et puis on commence à explorer. Donc, c'est évident que ce type de confiance est déjà une base pour une confiance qui ensuite va naturellement émerger au contact de notre propre expérience, de notre vécu. Et la confiance que l'on intègre ici et maintenant est bien sûr une confiance qui n'est pas uniquement basée dans une connaissance acquise, donnée par autrui, mais dans notre vécu. C'est-à-dire qu'on en fait l'expérience nous-mêmes, on goûte à l'exploration. Donc, son origine, si vous voulez, pour nous en tout cas, je veux dire peut-être que ceci peut porter un petit peu à confusion, mais pour nous, l'origine par rapport à cette confiance, elle est placée dans l'enseignement du Bouddha. Que lui-même a cheminé, c'est un homme, c'est pas un être supérieur, c'est pas un ange, c'est pas un dieu, mais c'est vraiment un être humain qui a cheminé et qui a approfondi sa compréhension de la nature humaine. Et il en a naturellement, et il a émergé à propos de ce qu'il a vécu, un enseignement. Et ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, s'il est aussi parlant, cet enseignement, c'est qu'il est extrêmement pragmatique. Il est vraiment basé dans l'expérience même. Et l'enseignement du Bouddha était très clair. Il a dit, tout ce qui m'intéresse d'enseigner, de transmettre, c'est de comprendre que il y a de la souffrance, il y a de l'insatisfaction dans la nature de chaque être humain, et il y a une fin à cette insatisfaction. Et bien sûr que cette insatisfaction, elle est basée dans le conditionnement, la saisie par rapport au vécu de chacun et chacune. Donc, on entend ces mots et puis ensuite, on essaye, dans la mesure du possible, de vivre cette expérience, vraiment la comprendre intuitivement. Et c'est ce qu'on fait ici. Chacun, chacune a son propre cheminement, son aspiration. Et ici, j'aimerais vraiment éclaircir un point qui m'a été posé à plusieurs reprises. C'est cette notion du désir. Parce qu'on utilise ce terme qui n'est pas tout à fait approprié. Lorsqu'on parle d'avidité ou désir-attachement, c'est vraiment une certaine forme tout à fait particulière, lorsqu'on parle de tanha, qui exprime en fait la soif insatiable. C'est-à-dire qu'à la base de ce type d'avidité, il y a la confusion. Notre manière d'être mu pour essayer d'obtenir quelque chose qui va nous apporter la satisfaction durable, à l'extérieur de nous-mêmes. Et on sent très bien que ce type de soif, eh bien, en elle-même, elle est source d'insatisfaction. On peut courir tout ce qu'on veut et il y a là une certaine saisie au niveau de l'avidité qui peut aller et conduire, si on n'en prend pas conscience, à des types de vécu tels les addictions, par exemple. Donc il y a vraiment cette dimension assez stressante de l'existence, mue par une condition intérieure. Donc c'est un type, si on utilise ce terme de désir, tout à fait particulier. Donc ça n'a rien à voir avec un désir bénéfique, propice, créatif, qui fait qu'on s'engage dans la vie, qui fait qu'on accomplit des projets ou qu'on satisfait un besoin complètement banal. Si on a soif ou qu'on a faim, eh bien on mange. Il y a le désir de manger et puis on mange. Donc, comment savoir? Eh bien, s'il y a du stress et de l'avidité, c'est-à-dire dans le sens que ça nous déséquilibre et que ça nous sort de notre axe, à ce moment-là, on peut vraiment se poser la question. Est-ce que ce type de manifestation d'avidité est quelque part source de souffrance? Donc, c'est important ce point. Les personnes qui sont vraiment sans désir, eh bien, peuvent aller tout droit à la dépression. Donc, c'est vraiment très important de comprendre que n'y a pas du tout cette dimension de ne pas vivre, de ne pas s'engager, de ne pas avoir de projet de vie. C'est toute une créativité et d'engagement. Et je peux vous dire que dans les textes d'origine, c'est inimaginable combien le Bouddha lui-même, il est engagé pour de multiples causes de vie et qui touchaient le monde. Il a essayé vraiment de manière extrêmement claire de faire cesser certains conflits au sein de sa communauté, de même qu'il est écrit qu'il était sur le champ de bataille pour faire cesser une guerre. Donc, quelqu'un d'extrêmement entreprenant. Donc, c'est très important, pour moi en tout cas, de manifester ce fait qui paraît assez clair. Voilà. Donc, chacun chemine, on a un désir, aspiration, souhaiter une transformation. Cette transformation, c'est évident que si on n'avait pas envie d'être mieux, plus en paix, ou quel que soit notre souhait, eh bien, on ne serait pas là, moi non plus. Donc, c'est une évidence qu'il y a quelque chose il y a une envie de changement, de transformation. Maintenant, lorsqu'on parle dans un processus de méditation, le processus même, il ne peut se passer qu'au contact de la réalité de chaque instant. Si on veut toujours le changement, eh bien, à ce moment-là, on est mu vers l'attente et ça nous porte à l'extérieur. On le comprend très bien, on a de la peine à dormir et puis on dit je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir. Vous n'allez peut-être pas vraiment arriver à vous endormir en formulant ceci. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment là une compréhension qui fait qu'on est en phase avec ce qui émerge. Donc la confiance, elle s'intériorise. Elle a vraiment ce pouvoir de s'intérioriser et à ce moment-là, elle devient une confiance beaucoup plus stable parce qu'elle n'est pas portée vers l'extérieur. Si elle est portée uniquement vers l'extérieur, qu'on ne se met jamais à pratiquer, eh bien, elle vacille. Et puis, il y a beaucoup de doutes. Et si ça se trouve, il y a beaucoup plus de doutes qu'il y a de confiance. Le doute est quelque chose qui est aussi exprimé. D'accord? Donc, cette confiance petit à petit s'établit, elle s'approfondit. Je cite ici le Bouddha. Il dit: Nous ne devrions pas croire à une chose uniquement parce qu'elle a été dite, ni croire aux traditions parce qu'elles ont été transmises depuis l'Antiquité, ni croire sur la simple autorité de nos instructeurs. Mais nous pouvons mettre en pratique un écrit ou une affirmation lorsque la juste compréhension que nous en avons et notre expérience intime les confirment. C'est exactement ce qu'on développe ici, une expérience intime qui va pouvoir affirmer et confirmer notre compréhension. Et à la suite de ceci, il est très clair, et une des phrases extrêmement célèbres de son enseignement, c'est « Soyez à vous-même votre propre flambeau. » Donc cette confiance s'intériorise petit à petit au contact de la pratique. Et ceci se fait vraiment progressivement et d'une manière très simple, vraiment d'une façon tellement concrète. À un moment donné, on ne peut absolument pas rester 2 minutes de plus assis en silence sur notre coussin. Il y a trop de douleur, il y a un recul, c'est complètement normal. Et puis, tout à coup, on se ressource au contact peut-être du point d'ancrage, quel qu'il soit pour vous. Et puis, il y a en quelques secondes un changement qui s'opère et on se ressource. Dans ce ressourcement, il y a tout à coup une qualité de confiance et on perçoit le vécu différemment. rien n'a changé à la circonstance. Il se peut qu'il y ait la même douleur physique, mais tout à coup, un positionnement qui permet de pouvoir se dire, tiens, j'ai la possibilité d'explorer peut-être ceci un peu plus longtemps. Donc, une grande partie de la confiance grandit au niveau de ce qu'on a nommé la relation à l'expérience. Non pas dans les expériences qui sont bonnes, j'en ai de plus en plus, parce qu'on sait très bien que des fois, elles sont agréables, et des fois, elles ne le sont pas. Et les circonstances font qu'il y a un va-et-vient d'expériences variées, diverses, et qu'on n'a pas beaucoup de prise là-dessus. Par contre, on a une énorme prise sur la relation à l'expérience. Et le degré de compréhension vient, et vous avez pu certainement remarquer, lorsqu'on résiste, eh bien, c'est encore plus douloureux. Donc, la confiance, elle s'établit progressivement grâce à une ouverture par rapport à ce qui émerge. Et les mêmes conditions peuvent être vécues très différemment à ce moment-là. Et ceci ici, comme bien sûr, ça peut être exprimé dans notre vie. Et je crois que ça, c'est vraiment important de ne pas du tout séparer la compréhension de notre vie. Donc, ceci se fait tranquillement, avec respect, dans le contexte qui nous est donné. Respect, doigté, délicatesse. On ne peut forcer l'ouverture. Mais petit à petit, la confiance grandit car il y a un accueil. Si vous voulez, une acceptation des choses et du bon vouloir, parce que ces qualités grandissent, de ressentir ce qui peut-être était impossible de ressentir lorsqu'on a commencé. Et donc, on peut vraiment, quelque part, avoir un regard sur aussi le passé et se dire, oh, quand je pense, quand j'ai commencé, moi je me souviens, mais c'était impossible de m'asseoir une demi-heure. 5 minutes, et puis... Voilà, et rien que ça, le constat, et je crois que c'est important, on peut vraiment avoir une idée qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, et puis ça manque, et puis ce qui manque, mais c'est tellement important aussi d'avoir un vécu un peu complet et de se dire bah, d'où on vient, d'où est-ce que je viens, et relativiser à ce moment-là, c'est extraordinaire. Et pour chacun, je pense qu'on peut, bien sûr, prendre appui. Et ceci donne confiance. Alors, il y a une distinction entre la confiance et l'espoir. La nature, si vous voulez, de l'espoir est bien sûr quelque chose qui peut émerger, mais au niveau de l'enseignement, l'espoir, il est empli d'attente. Quelque part, on attend quelque chose qui vient de l'extérieur. Et ce qui est marquant, c'est que cet espoir est souvent, justement, empli d'attente pour un résultat spécifique. Et ça, je pense que vous avez certainement vécu. C'est... J'aimerais tellement que ce soit différent, puis j'aimerais ça. Donc, un résultat spécifique, c'est que quelque part, là, il y a sous-jacent une saisie, une attente et un attachement. Lorsqu'il y a la présence de l'espoir, il y a forcément la présence de la crainte. Donc, espoir et crainte vont de pair. Espoir d'obtenir, d'acquérir, et donc là c'est vraiment basé dans cette saisie d'attachement, et crainte de ne pas obtenir, de ne pas acquérir. Donc voilà les deux modes qui sont naturellement basés dans la confusion et qu'il s'agit simplement de reconnaître. de faire la différence. La confiance, elle, elle n'a pas d'attachement à un résultat précis. Il y a une ouverture et il y a une capacité de cheminer vers l'inconnu. Lorsqu'il y a espoir et crainte, on est souvent placé dans ce qui est connu, ce que je sais déjà. Alors que la capacité de cheminer en confiance nous permet d'aller un tout petit peu plus à l'aventure et de découvrir, d'explorer. Tiens, c'est nouveau, il y a la fraîcheur et il y a la dimension d'un approfondissement qui, bien sûr, à ce moment-là, donne une ouverture, disponibilité et fluidité, surtout fluidité, plutôt que crispation et nœud. Donc la confiance, elle va exercer une très grande influence sur notre esprit. Elle va vraiment nous donner un socle, si vous voulez, une base, qui va nous permettre de continuer tout simplement le chemin. On dit qu'elle a cette fonction. Plutôt que d'abandonner, eh bien, on persévère. On a vraiment ce souhait quelque part, comprenant que c'est heureux et que c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens souhaité. Elle va naturellement laisser émerger le deuxième, la deuxième qualité, ce deuxième facteur spirituel, qui est nommé, traduit en tant qu'énergie, effort, enthousiasme, courage. L'effort et l'énergie marchent ensemble. Souvent, on se dit, tiens, on n'a pas assez d'énergie, donc on ne fait pas l'effort. Et autant qu'elles fonctionnent ensemble, il y a dans l'enseignement une dimension très claire. Faire l'effort en premier donne de l'énergie. Et c'est assez intéressant cette notion-là parce qu'on se dit vraiment, ah non, là, j'ai pas l'énergie, je ne vais pas faire l'effort. Et puis en fait, c'est vraiment indiqué d'une manière très claire que c'est l'effort, quelque part, d'être attentif ou d'être présent, cet effort placé dans l'attention et qui va naturellement donner plus d'énergie. Moi, je ne sais pas, mais pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est souvent le cas par rapport à des exercices physiques, un peu avec un peu d'endurance. J'ai jamais vraiment envie, ouais, j'ai un plafond. Et puis là, je me dis, bon, non. Et à chaque fois que je me donne une situation où ça demande un petit peu plus, l'effort est fait. Et au bout de quelques minutes, voire quelques moments, ah, je sens vraiment un soulèvement de l'énergie. Et l'énergie vient en faisant l'effort. Donc en pratique, c'est vraiment exactement la même chose. Donc, l'enseignement dit rien n'arrive sans effort. Ce terme d'effort, il est autant mentionné que le terme de pleine conscience dans l'enseignement. C'est assez intéressant. Donc, de quel effort parlons-nous? Eh bien, une pratique comme celle-ci n'est vraiment pas facile. Donc, elle demande de toute évidence un certain engagement. Et les instructions ici sont très simples. Il est demandé d'être pleinement conscient de manière continue. C'est la pleine conscience avec continuité, non pas quelque part faire un immense effort, comme je l'ai dit, c'est pas par la volonté, mais simplement cette finesse de contact, de demeurer au contact, qui n'est pas si facile pour nous. Qui nous est demandé de manière continue. Une sensation physique, la reconnaître, une émotion, une pensée, reconnaître, et l'énergie qui est demandée tout d'abord, et c'est là quelque part la phase la plus complexe pour la plupart des personnes, c'est de passer de ce mode conceptuel, c'est-à-dire de vivre et de penser, à l'expérience directe. Et ça signifie quoi? Eh bien, je pense, j'ai une douleur, et de passer au mode du vécu, expérimenter la sensation corporelle telle qu'elle est. Donc, ce mode de concept à intuitif ou expérience directe vécue. Donc, la plupart du temps, on pense, on interprète, on analyse. Donc, tout ce mode conceptuel, on passe tellement de temps à ce niveau-là que ce n'est pas évident. Donc, l'effort, il est vraiment placé à ce niveau-là. Cette énergie qui est placée dans le sens de vivre l'expérience. Et par habitude, eh bien, on est distrait, dispersé, et donc ça demande un certain effort déjà d'aller au contact et d'y demeurer, de vraiment nourrir cette attitude. Et ça fait partie de l'aventure. Alors maintenant, dans l'enseignement, on parle d'un effort erroné. Donc, il y a vraiment un effort juste et un effort erroné. L'effort erroné, c'est celui qui, bien sûr, nous met en déséquilibre. Comment est-ce qu'on se met en déséquilibre? Un effort qui porte à vouloir quelque chose qui n'est pas là. Donc, on parle bien ici d'un processus de méditation. Donc, on n'a pas besoin de le produire. On est vraiment dans un rapport où on nous demande d'être présent à ce qui est déjà là. Et ça, on l'a répété maintes et maintes fois parce que c'est tellement important. Ce qui veut dire que l'effort erroné va créer des tensions supplémentaires. Si on s'efforce à, eh bien, on crée de la saisie. Et on produit de la saisie. Donc, non seulement on est dans un registre, un rapport qui va être douloureux, mais on se tend. Donc, les tensions proviennent de notre manière de nous poser de façon erronée. Et ça, c'est très fréquent. Je suis sûre que vous avez certainement vécu ceci. Donc, il s'agit simplement d'en prendre conscience. Et de se poser la question par moment. Tiens, combien d'efforts? Quelle est l'énergie déployée? Et le fait de se poser la question aide immensément. C'est la pleine conscience qui va vous mettre dans une énergie juste. C'est l'attention elle-même, et elle a ce rôle, quelque part, de pouvoir nous rééquilibrer. Elle restabilise. Donc, en prenant conscience, bien sûr, on a à ce moment-là un positionnement plus juste. Donc, plus réceptif, plus de détente, plus de disponibilité pour ce qui est déjà là. Et donc, au niveau de l'effort juste, il y a un exemple qui est donné, c'est celui des cordes d'un violon. Lorsqu'elles sont trop tendues, il ne va pas y avoir un beau son. Lorsqu'elles sont trop lâches, la même chose. Le son ne sort pas. Donc, il y a vraiment cet exemple qui est parfait, juste assez pour avoir un contact véritable avec l'expérience présente. Donc, une qualité de sensibilité. Et c'est là qu'on comprend bien que la méditation, c'est un art. Un art, pas une technique pour s'efforcer à. Il y a vraiment de la sensibilité. Et à ce moment-là, l'énergie peut être soutenu. De cet effort, il va y avoir une qualité de continuité au niveau de notre énergie. Et c'est une énergie mentale et elle est très légère. L'énergie à soutenir est vraiment légère. Et je vais vous demander de faire un petit exercice. Joignez vos mains. la manière qui vous sied, soit vous les joignez comme ça ou bien comme ça. Voilà. Est-ce que vous sentez les sensations dans vos mains? J'imagine que oui, si vous êtes réveillé. Donc vous sentez ces sensations, vous êtes en contact de manière sensible, une expérience vécue. Qu'est-ce qui vous permet de sentir ces sensations? Vous pouvez me répondre. Le fait d'être présent, d'être en contact. Si vous pensez à autre chose, vous ne sentiriez pas ces sensations. D'accord? Donc, le fait d'être présent, c'est une certaine attention. La question importante, combien d'efforts est-ce que ça prend? Est-ce que ça prend beaucoup d'efforts? C'est ça. C'est ça l'effort, l'énergie déployée. Sensibilité. Donc, c'est exactement, c'est tellement parlant cet exemple, non? Au niveau de cette qualité d'énergie déployée. Simplement là, présent, en contact, sensible. Et c'est cette qualité-là d'énergie, mais dans la continuité. Et c'est là que c'est qu'il faut du courage. Ou de l'enthousiasme, parce que c'est dans la continuité. On prend comme exemple, ok, une minute, et puis hop, puis alors, qu'est-ce qui va se passer après? Et puis hop, voilà, on est vite parti. Mais si on veut vraiment explorer cette qualité de présence intuitive, de pleine conscience, à un niveau qui n'est pas juste une seconde, une bribe, et puis hop, on repart dans les pensées, les interprétations, là. Il y a quelque chose qui se déploie et qui va à la sagesse, à la compréhension intuitive. D'accord? Donc, cette qualité-là, elle est très clairement manifeste, elle est simple et elle émerge naturellement d'un contact immédiat. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est le contact immédiat. Alors, cet effort, il est à ce moment-là équilibré. C'est un flot continu d'énergie disponible. Alors, bien sûr que ça va fluctuer. Si on a beaucoup d'énergie, ben forcément qu'il y a un haut degré d'énergie disponible. Si on en manque, ben ça va être quelque part un effort qui va être tout à fait conscient de la somnolence, par exemple. Mais c'est le même type d'énergie. On peut très bien être dans cette somnolence et la somnolence révèle la conscience. D'accord? Donc, ce n'est pas qu'il faille des circonstances particulières pour le nourrir. Donc, confiance, énergie, enthousiasme va naturellement nous donner une qualité de présence. La présence va nourrir l'énergie et donner confiance. Donc, toutes ces qualités sont interdépendantes et se nourrissent les unes les autres, se soutiennent. Donc, la pleine conscience émerge de la confiance et de l'énergie de l'effort. C'est la troisième. Cette pleine conscience, je ne veux pas en parler beaucoup parce qu'on en a énormément parlé, mais c'est le seul, quelque part, facteur mental, ou si vous voulez, la seule qualité qui ne peut jamais être en excès. Qui ne peut jamais être en excès. On ne peut jamais dire « Oh, il y a trop de présence. » On peut dire « Il y a trop d'énergie. » Car s'il y a trop d'énergie et pas assez d'équilibre, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va donner? De l'agitation. Donc, la présence, la qualité de pleine conscience est une qualité qui non seulement peut être nourrie et doit être continue, mais elle équilibre d'autres qualités. Et je vais l'expliquer dans quelques instants. Donc, cette qualité de pleine conscience, elle a naturellement un rôle, celle de nous maintenir à un niveau d'expérience directe. Cette expérience directe, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'en réalité, avant qu'on commence à interpréter, analyser, dire des choses à propos de, par exemple, avant que je dis, ben, le gong sonne et je dis, ah, immédiatement, j'ai la phrase, c'est la fin de la méditation. Hein? Le gong a sonné. Mais c'est immédiat le fait que on remplisse le moment avec une phrase, ou c'est le chant de l'oiseau, ou je marche. Je veux dire, on vit vraiment à un niveau conceptuel. Quand on commence à développer cette qualité de pleine conscience, on commence à découvrir un espace, si vous voulez, ou un moment où il y a une qualité de contact avant qu'il y ait l'interprétation, le vécu, l'expérience. On entend, et ce qu'on appelle conscience auditive, on a l'écoute, on entend, et le mot qui nous vient si facilement, ben c'est un autre moment. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ceci pour tout type d'expérience. Donc, il y a une clarté et une présence, et c'est là que on est conscient d'être conscient, et non pas par le biais de la pensée ou de l'analyse, et ni dans le fait de nommer, d'étiqueter. Et en réalité, la qualité de présence, de pleine conscience, elle est simplement en train de reconnaître ce qui émerge, quelle que soit l'expérience. Le mouvement de la pensée qui décrit l'expérience ou qui va l'interpréter, c'est un autre moment. Donc, en temps normal, on n'est pas du tout présent, conscient, pleinement conscient de cette qualité-là. Et le processus de la méditation nous invite non seulement à découvrir, mais à vraiment prolonger par moment cet état de ce fait, d'où présence intuitive. Voilà ce que je vais dire de la pleine conscience, parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Plus elle est continue, plus il y a d'énergie à cheminer, et cette pleine conscience va nous permettre d'aller à la sagesse, c'est-à-dire à la vision pénétrante, ce qu'on appelle vipassana, voir de manière pénétrante, non pas l'interprétation, les idées, les concepts, les jugements, mais vraiment clairement la nature de chaque expérience, et ceci, on le nomme sagesse intuitive. Sagesse intuitive implique aussi que dans ces instants-là, il y a absence de saisie. Maintenant, il y a une qualité qui manque. C'est la concentration. Ça m'a dit très mauvaise cette traduction, ce terme de concentration. Pas du tout compris. Dans le sens que ça m'a dit, ça veut vraiment dire, et il y a beaucoup maintenant d'enseignants qui disent, on ne va pas traduire ce terme, et on le voit dans les textes mentionnés comme ça m'a dit. Parce que c'est pas du tout, genre, pour nous, on comprend, en tout cas, beaucoup de gens qui j'enseigne comprennent, concentrer. figé, forcé, et puis vraiment, il faut rester absolument sur l'expérience. Et ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit vraiment d'avoir quelque part un état où on rassemble l'énergie. Justement, parce que si souvent on est dispersé, distrait à distance, là, il y a de cette énergie pour que l'attention puisse être posée et qu'il y ait un contact d'intimité, comme je viens de le décrire, ben, il faut un certain rassemblement. Si vous n'êtes pas stable, eh bien, vous n'allez pas pouvoir demeurer à ce niveau de présence et de présence qui vous mène à la compréhension intuitive. Donc, c'est beaucoup plus ce terme-là. Et le terme, un autre terme qui peut être tout à fait judicieux d'employer, c'est le fait d'être composé. Composé dans le sens de poser avec. Vous voyez ce que je veux dire? Poser, vraiment littéral, hein? Poser avec. C'est-à-dire qu'on est posé avec l'expérience. Ce que Charles appelle souvent l'intimité. Il utilise ce terme d'intimité, c'est-à-dire au contact, de vraiment demeurer au contact. Alors, cette qualité ici, c'est très intéressant parce que la pleine conscience ou l'attention et, si vous voulez, samadhi, ce rassemblement d'énergie, peut bien sûr se développer avec une expérience, et c'est généralement comme ça qu'on commence, la respiration, souvent ce qui est donné, pour le calme, la tranquillité, ce qu'on appelle la concentration. Donc, on peut très bien graduellement développer la confiance, mettre toute son énergie, appliquer la pleine conscience, la qualité d'attention sur un point particulier. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle la tranquillité ou l'apaisement. Il y a beaucoup de manières de présenter ces enseignements. Et c'est tout à fait juste. Pour certaines personnes, c'est extrêmement important tout d'abord de trouver un certain calme, puis ensuite de passer à la vision pénétrante. Suivant les situations, on va assembler les deux. Et c'est ce qu'on a fait ici. On donne le point d'ancrage et on peut revenir autant qu'on le souhaite au point d'ancrage pour développer ce socle, si on veut, ou cette stabilité au niveau de l'attention, mais pas exclusivement. Si on développait que le calme, que la concentration, on resterait intéressé à cette expérience uniquement et on peut très bien rester stable au niveau de l'objet. C'est-à-dire que là, il n'y a pas la compréhension. On a vraiment une différence, et il est important pour nous de la faire, entre, et ça Charles l'a fait à maintes reprises, d'être vraiment au contact et perdu dans l'objet, collé si vous voulez à l'objet, ou cette qualité d'être conscient du fait d'être conscient de ce qui se passe. Et uniquement le calme ne va pas amener à cette vision pénétrante, à la sagesse. Donc ça peut être une base extrêmement importante. Tout d'abord, cultiver ceci et pour ma part, s'il y a parfois des situations un peu difficiles, compliquées, c'est une évidence que par moment, je pratique le calme. Pourquoi pas? C'est très bien, ça ressource, ça donne vraiment une qualité de tranquillité intérieure qu'on n'aurait pas autrement, et plutôt que de nourrir les réactions, les résistances, et puis se perdre dans la confusion, c'est une qualité. Donc le calme est là vraiment comme qualité. On peut aussi développer cette qualité d'attention et de samadhi, donc de stabilité, pour vipassana, par le biais de différentes expériences, pas uniquement en contact avec la respiration, par exemple, ou le point d'ancrage. Ce qu'on a fait ici. On ouvre le champ de l'expérience et puis une sensation, une pensée, une émotion, un son. Voilà. Donc, globalement, le processus, si vous voulez, est le même, mais on peut très bien, à ce moment-là, avoir à cœur que si c'est la vision pénétrante, on commence à connaître la nature de l'expérience. Ce n'est pas un concept, la respiration n'est pas un concept, c'est pas simplement le nommer, inspire, expire, mais de vivre au contact de la nature de cette expérience et à ce moment-là d'être conscient de la nature de l'expérience même. Donc il y a vraiment plusieurs manières et je crois que ce qui est important, c'est d'être conscient et de savoir ce qu'on pratique et ce qu'on propose. Il n'y a absolument rien de juste ou faux, mais qu'est-ce que je développe et d'être au clair par rapport à ce qu'on souhaite et où on veut aller. Il y a une jolie petite histoire qui parle de la concentration, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un effet. On dit qu'il y a des facteurs qui sont des causes, c'est-à-dire qu'on peut les développer. On peut développer l'énergie, on peut faire l'effort, on peut développer l'attention et la concentration et la sagesse sont des résultantes. Et c'est assez logique, ça, en fait. Donc, il y a là quelque chose qui est naturellement émergent. Donc, il y a une jolie petite histoire qui parle de la concentration qui dit: quatre moines sont dans une grotte et la mèche de la lampe à beurre s'est éteinte. Et ces moines sont en méditation silencieuse comme nous. Donc, il est dit là, eux, qu'ils ont pris les vœux de silence. Donc, je ne sais pas si nous, on a pris les vœux de silence. En tout cas, on est encouragés à garder le silence. Et donc, dans cette petite histoire, le premier moine dit: la lampe à beurre s'est éteinte. Le deuxième dit: tais-toi, tu nous distrais. Le troisième dit: restez en silence, vous savez que vous avez pris le vœu du silence. C'est tout à fait approprié, hein, cette histoire. Le quatrième, est-ce qu'il reste silencieux? Il dit: je suis le seul qui n'ait rien dit. Oh, combien c'est difficile, hein, de rester en silence. Conditionnement. Donc, voyez. Et donc, la sagesse. Juste quelques mots. Pour terminer, la sagesse, bien sûr que c'est quelque part ce qui va nous libérer. Libérer du conditionnement. C'est cette sagesse intuitive qui nous permet de comprendre profondément la nature de la cause de la souffrance et la nature de la fin de la souffrance. Et forcément que la pratique est le cheminement. Alors, souffrance, c'est un bien grand mot. Hein, je veux dire, on peut utiliser le terme aujourd'hui, souvent il est utilisé le terme d'insatisfaction, de manque de satisfaction, stress. Donc, il y a vraiment beaucoup de degrés. Ce terme de dukkha, le terme est dukkha. À nouveau, il y en a des pages et des pages pour décrire exactement ce que signifie dukkha. Et puis, il y a aussi cette dimension, et je crois qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est tellement juste, en tout cas par moi-même, je vibre avec cette compréhension de dukkha, dans le sens que même si on n'est pas en grande souffrance pour une raison ou une autre, il y a aussi la mention très claire de l'aspect de les choses, les conditions de vie ne sont pas fiables. Et ça, c'est un aspect extrêmement sensible pour nous, parce qu'on aimerait tellement que les choses soient fiables, qu'elles perdurent, qu'elles demeurent, qu'on puisse les avoir comme on voudrait. Donc, la sagesse intuitive va nous permettre non seulement de comprendre ceci intellectuellement, c'est évident qu'on comprend ce que je viens de décrire. Donc, intellectuellement, on comprend ça. Au niveau de l'éprouver et de vivre ces expériences, c'est encore tout un autre cheminement. Et c'est exactement pour ça que quelque part on chemine, même vers la diminution du stress, réduction du stress, de voir, tiens, mais qu'est-ce qui cause le stress? Et on va être en phase à vraiment, quelque part, être en contact avec la confusion. Que nous sommes des êtres, même si on comprend bien que les choses sont impermanentes, que les phénomènes, parce que rien ne reste, rien n'est permanent, eh bien, on se leurre en pensant quelque part que, oui, je peux avoir mon existence qui va, bien sûr, se dérouler de cette manière, de cette manière, de cette manière. Et puis, tout à coup, des événements émergent et on est au surpris ou au complètement en perdition parce qu'on n'a pas intégré cette réalité qui est en fait une réalité des conditions et d'un monde qui, bien sûr, a certaines caractéristiques. Donc, on parle au niveau de la sagesse intuitive de vraiment commencer à intégrer et ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, si vous voulez, cette vision pénétrante, permet un contact direct et un vécu par rapport à trois types de caractéristiques. Et ces trois types de caractéristiques, c'est l'impermanence, c'est-à-dire que les choses changent. Comme un grand maître de la tradition de la forêt, Achan Chah, dit, tout est incertain. Rien n'est certain. Nous n'avons aucune certitude. Donc, ça implique, s'il y a un tout petit peu de sagesse, puis bien sûr qu'elle est nourrie, et puis avec confiance, on commence à cheminer, à vivre avec cette expérience. De dire, bah tiens, effectivement, les choses sont appréciées, elles sont là, elles vont dans le sens souhaité, et puis il y a effectivement une incertitude. Donc, en comprenant vraiment profondément cette caractéristique d'existence, il y a naturellement moins de saisie. Donc, ce qu'on explique dans le sens de lâcher prise, c'est que naturellement, on va vivre plus au contact de la réalité, c'est-à-dire vipassana, des choses comme elles sont. Parce qu'on est moins confus, on comprend mieux et on vit mieux et on est plus à même d'être ouvert. Donc l'existence, tout à coup, elle devient aussi beaucoup plus précieuse. Plutôt que d'être constamment à l'affût de quelque chose qui n'est pas là, il y a une immense appréciation pour ce qui est là. D'où une paix plus profonde. Deuxième caractéristique de l'existence, c'est puisque tout est incertain, rien n'est sûr quelque part, on ne peut pas vraiment compter sur la permanence, ça va toujours être comme ça, eh bien, il y a cette dimension justement de dukkha, qui est la deuxième caractéristique de l'existence. C'est que quelque part, là où on veut tellement que les choses soient d'une certaine manière, et ça même est dukkha, c'est de la souffrance. Donc on s'oppose à la réalité, le fait même de s'opposer à cette caractéristique d'existence. On voit le bonheur là où il y a de, de la souffrance. Et ça, c'est bien sûr à nouveau un mode de confusion. Et on est confus pourquoi? Parce que bien sûr, et plein de fois, on arrive à nos fins. On l'obtient. Donc, il n'y a pas de raison de mettre ceci en question. Il n'y a qu'à éliminer quelques petites choses et puis voilà quoi, je peux être heureuse. Et à un certain niveau vraiment profond, si vous voulez, au niveau de l'existence, eh bien, on parle d'un mode de confusion. Et puis la dernière, le troisième, qui est vraiment extrêmement complexe pour nous occidentaux, mais quelque part, c'est cette dimension d'ego réducteur. Dans le sens de percevoir une entité permanente qui ne change pas, que nous sommes, un moi qui est bien sûr comme tout aussi un processus en changement. Et on se voit, il y a, vraiment là on défie un peu nos croyances, la saisie est située par rapport à la notion du moi. Une vision tout simplement figée par rapport à qui nous sommes. Alors que, ô combien on peut voir de la transformation sur des années. Je m'appelle un tel depuis que je suis née et c'est toujours moi. Mais il y a vraiment une transformation évidente, je peux vous le dire, et je le sens. De la même manière que. On peut aussi dire, tiens, je suis toujours, et au niveau de la personnalité ou un état d'humeur, dans cet état d'humeur. Et on met cette notion de permanence. Mais même aujourd'hui, franchement, au niveau du vécu, combien d'états d'humeur avez-vous eu depuis ce matin? Wow, c'est fluctuant, ça change tout le temps. Les sensations corporelles, ça change tout le temps. Donc là, il y a aussi une compréhension au niveau de la sagesse, vraiment au niveau du vécu, de comprendre et d'intégrer une profondeur. Et la vision pénétrante nous permet à ce moment-là de réellement intégrer. Mais qu'est-ce que je saisis en fait? À quoi je m'accroche? À quoi je m'accroche? Et bien sûr que ça, c'est un processus extrêmement graduel. D'où la nécessité d'avoir confiance, de cheminer tranquillement. Et je vous assure que le bienfait, justement, cette libération, cette liberté, elle se situe au moment même où on éprouve ceci. Ce n'est pas à la fin d'un chemin, au bout de 50 ans ou 30 ans. Il y a vraiment un contact, et je suis sûre, et certains d'entre vous l'avaient vraiment dit d'une manière très claire, qu'au moment où il y a une perception, une vision claire de la réalité, il y a quelque chose de l'ordre d'une liberté, d'une paix, d'une compréhension plus profonde. On comprend à ce moment-là la nature de la réalité. Voilà, je vais finir avec juste un tout petit texte. D'un maître de la tradition bouddhique. Il dit, ceci est un encouragement à poursuivre cette exploration dans laquelle je me suis engagée. Et cela non pas pour y trouver la solution finale, mais pour la joie de savoir que l'aventure d'une vie créatrice n'aura jamais de fin. Sa récompense est d'avancer, non d'arriver. De même que pour un voyage entrepris comme pèlerinage. Nous pouvons avoir un but et une direction. Mais si c'est un vrai but, on l'atteindra dans chaque pas qui y conduit. C'est la route qui est le but. Donc, où qu'on se trouve sur ce chemin, c'est la route qui est le but. Donc, on peut cheminer en confiance.